de CSAT à l'époque, mais pas du tout. On m'aurait dit que on m'aurait dit dans un an tu allais être traiteur, j'aurais rigolé. Et Floul, moi, ça m'a, mon corps n'a rien compris. Vraiment, j'ai pris un coup. Mon corps a pris un coup, mon dos, parce que en fait, tu commences à prendre des charges assez lourdes.
Hello,
Ma'akom Houda Ourania de Mima Life.
Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriées marocaines à travers le monde.
Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes.
Où le head of Diana est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences.
Le tout dans un contexte sans filtre.
Salma, expatriée maghrébie Aïcha en France, elle est traiteur de buffet blamsa maghrébie en Méditerranée. Youma Audetna a sa reconversion pro, ingénieur cyber security, un métier de traiteur. Dans le domaine de restauration, on y fait mon affaire à Bsaf, je crois qu'il demandait mon traitement au Moutsabara. Salma Youma Moukawila, Safira de Makle Maghrébia, Kanat aussi Aoul Maghrébia qu'elle a fait goûter à la maison Balenciaga Zalouk Maghrébi. Bref, la mentawali comme bizarre, Khali comme à Salma.
Mais en tout cas, merci d'avoir pensé à moi.
Avec plaisir. Au Brian Alfolik, du coup, Alfolik ça, ou surtout, on peut un peu directement la partie reconversion pro et ce aide de l'Ikharak Bzaf Vennes. Pour toi, qu'est-ce que tu as de la reconversion pro? C'était un rêve d'enfant Flewell ou là, c'était juste l'inspiration au cours de ton travail? Ou voilà, parle-nous un peu de ça.
Bon, alors, je vais parler de ce que je suis aujourd'hui et ce que j'étais avant. Alors, aujourd'hui, je suis traiteur et pas trader, comme beaucoup de Marocains me disent. Tu sais, au Maroc, quand je vais à Casa et quand je rencontre de nouvelles personnes, quand je dis que je suis traiteur, ils me font « Ah, traiteur !» Non, je dis non, en fait, c'est traiteur. Et c'est vrai qu'ils sont très souvent étonnés. Et il y a 2 ans, j'ai fondé ma société Le Temps d'un Buffet, dont la mission est relativement simple, c'est faire vivre une expérience conviviale et authentique autour d'une table abondante de bons produits cuisinés aux senteurs méditerranéennes et principalement marocaines. Donc cette société, je l'ai créée il y a 2 ans maintenant. Et Anna, j'ai fait une reconversion progressive. Donc, je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain. Finsangol, bon, demain, qu'est-ce que je vais faire? Avant, j'étais dans la cybersécurité, donc rien à voir. J'ai aussi un diplôme d'ingé, comme vous deux. Et j'ai fait de la cyber chez Cisco. J'ai été épanouie dans ce boulot, j'aime ce boulot et d'ailleurs je suis toujours les actualités de ce qui se passe, les cyberattaques, etc. parce que c'est toujours intéressant. Mais en fait, pendant 10 mois, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur en cybersec de lundi à vendredi et samedi dimanche, j'ai changé de casquette pour faire des petites prestations. Mais avant ça, du coup, que j'avais commencé à faire des buffets chez moi pour mes amis proches. Ensuite, un de mes amis m'a contacté pour faire la même chose chez lui, mais pour sa femme, et où il avait invité d'autres personnes que je connais pas. Et en fait, une de ces personnes-là m'avait contacté pour faire le buffet du mariage. Et c'est là où je me suis dit bon, c'est le mariage. Là, c'est quand même une prestation importante pour quelqu'un. À l'époque, je n'avais jamais encore facturé, je ne connaissais pas du tout le milieu, je ne connais personne autour de moi qui fait ça, ni au Maghreb, ni ici. Et donc, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'ai accepté, moi qui accepte les challenges depuis un certain moment, je pense que depuis toujours, je dirais. Bon, tu sais quoi, je vais le faire quand même. Je ne sais pas comment, ni quand, ni pourquoi, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de lui faire plaisir et surtout que la personne que je ne connais pas vraiment, que je connaissais de vue, mais me fait confiance pour son mariage. Et forcément, il fallait bien le travailler, tout anticiper, la partie logistique, enfin tout le tralala. autour d'une prestation et je l'ai fait. C'était une prestation pour 100 personnes, mais j'avais moi, il y avait déjà un traiteur et moi je me suis occupée de la partie dessert, donc c'était pour 30 personnes. Et vu qu'il y avait 100 personnes qui ont vu le résultat de mon travail, qui ont vu ce que ça donnait, et bah depuis, ça fait effet boule de neige, en fait. Et depuis, j'ai commencé à avoir des prestations, presque toutes les semaines, des appels, de nouvelles demandes, etc., alors que j'étais toujours au boulot. Donc, c'est pour ça que, du coup, au bout d'un moment, j'acceptais quand même quelques demandes que je trouvais faisables, parce qu'il y a des demandes de plus de 100 personnes, c'était pour moi impossible à l'époque. Et je me disais, je finissais mon travail vendredi, ma nouvelle vie commençait, quoi, samedi, dimanche. Donc, j'ai fait ça pendant 10 mois. Je crois que c'était les 10 mois les plus « hard ». Les plus denses, mais je ne regrette absolument pas d'être passée par là parce que justement ça m'a poussée à mettre un peu le pied sur ce milieu qui m'était méconnu à l'époque et de rencontrer des personnes, de nouvelles personnes dans ce milieu, des entrepreneurs dans ce milieu pour justement proposer ce que je propose aujourd'hui. Donc voilà un petit peu.
Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ouais. Qu'est-ce que c'est de gérer ce double job depuis les 10 mois? Est-ce que la gestion de temps, quand tu mets les achats, tout ce qui est ingrédients et tout ça, tu fais ça la soirée après le boulot?
Je faisais ça entre deux réunions, entre midi et deux. En fait, ce qui est bien et heureusement que je l'ai fait, c'est que j'étais très transparente à mon équipe, ma hiérarchie, ma directrice. J'étais très transparente, ce qui fait que même mon équipe vivait cette passion, parce qu'à l'époque, c'était plus une passion, c'était pas mon boulot, a vécu ça avec moi. Et donc, le fait qu'ils vivent ça avec moi, c'est aussi grâce à eux que je me suis reconvertie. Et c'est grâce à eux qui m'ont poussée à aller vers cette voie-là. Et je pense que Kukan, j'étais pas transparente avec eux. Kukan, je cachais cette double vie que j'avais. Déjà, Anna, ça me ressemble pas. Ça aurait été trop, trop dur pour moi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup de ma vie. En plus, on était en open space, donc forcément, tu vas parler de ce que tu fais, de les week-ends, etc. Donc forcément, hein, là, je parlais de ce que je faisais. Et donc, ma directrice, surtout, elle était tombée amoureuse de mon projet. Et c'est un peu grâce à elle quand je dis grâce à elle, c'est un petit peu aussi grâce à elle que j'ai fait cette reconversion. Parce qu'en fait, au début, je travaillais de lundi à vendredi. Ensuite, je suis passée en 4-5e. 4-5e, c'est 4 jours sur 5. Puis j'avais un jour par semaine où je faisais autre chose. Ensuite, 3-5e, 2-5e. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai fait une reconversion progressive. Je suis le temps de m'adapter à ce nouveau mode de vie, parce que c'est pour le coup vraiment rien à voir. Ce n'est pas dès que 8h, midi, 14h, 18h. Je travaille des fois la nuit, le matin très tôt, les week-ends. C'est du boulot.
Ouais, je n'ai la journée type maintenant un métier de traiteur.
Ouais, franchement, pour le coup, il n'y a vraiment pas de journée type. Il n'y a pas du tout de journée type. Tu peux pas, en fait, mon lundi n'est pas comme mon mardi, n'est pas comme mon mercredi. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est. Je me lève le matin, je me lève très tôt. Moi, je me lève tôt grâce à mes parents, enfin grâce ou à cause de mes parents, parce que des fois, je leur en veux justement. Je veux juste faire ma petite grasse matinée, mais je n'arrive pas. Mais moi, je suis calée à 5h30, 6h. Du coup, je me lève très, très tôt tous les matins, sans réveil. Et en fait, c'est là où je commence à... Bon, je commence par mes mails généralement. Et à partir de 9h, je vais... Soit aller en cuisine, en labo. Avant, j'avais pas, j'étais toute seule en fait. Avant, j'étais toute seule à tout faire. Maintenant, j'ai pu créer mon équipe. Je suis moins en opérationnel, sur l'opérationnel, moins en... Je dirais que je travaille moins dans mon business, mais je travaille plutôt sur mon business. Et c'était un peu l'objectif de l'année 2023, c'est que je lève le pied sur l'opérationnel, sur la prod surtout, pour que justement je travaille tout l'aspect marketing, et développement de la stratégie de l'entreprise, etc. Et c'est ça aujourd'hui ma valeur ajoutée. Parce que dans mon équipe, il y a une personne full-time en cuisine. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en cuisine, je ne suis plus en cuisine. J'y vais très souvent, presque tous les jours, mais plus pour contrôle qualité, à droite, à gauche. sur le développement, je fais beaucoup de développement de recettes. Je travaille généralement avec toute l'équipe, mais je suis beaucoup moins en prod parce que c'est un boulot à part entière en fait. Être prod, c'est être en cuisine.
Et pour toi, pour maintenant faire le métier là, où c'est possible d'être seul? Ah oui, là c'est vraiment impossible. Tu peux pas maintenir.
Tout dépend de tes objectifs. Si tu veux, tu peux rester seul. Il est tout à fait possible de rester seul, de faire les choses seul, mais ça veut dire qu'en fait, tu vas tout faire toi-même et que tu ne vas pas pouvoir faire plus de prestations. Au début, quand j'étais seule, je faisais une prestation toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je dirais. Je ne pouvais pas faire plus parce que c'est trop pour moi. En fait, aujourd'hui, pour faire une prestation, en moyenne, il faut compter 1 à 2 jours de cuisine avant, voire même 3 sur certaines recettes, pour préparer tout le buffet. Aujourd'hui, je fais des buffets, comme tu dois le savoir. Ouais. Mais pour préparer ça, oui, il faut 2-3 jours. Il ne faut pas négliger la partie déco. Il ne faut pas négliger la partie logistique. La partie récupération du matériel et puis la partie administrative et comptable qui est un casse-tête. Donc, toute cette partie, tout ça fait que je ne pouvais pas faire plus d'une prestation par semaine. C'était impossible pour moi. Et justement, pour en faire plus, parce que j'avais plus de demandes et c'était dommage de passer à côté des demandes que j'avais, surtout que je voulais les faire, ça m'excite de pouvoir faire plus de prestations, de pouvoir rencontrer plus de monde, faire plaisir à plus de monde et faire vivre cette expérience à ces personnes-là. J'ai dû prendre une stagiaire, une personne en freelance, travailler avec des partenaires en logistique, des partenaires sur une partie du buffet, parce que j'essaye d'externaliser une petite partie aussi quand je ne peux pas la faire. Enfin, bref, voilà, tout ça pour te dire que c'est grâce à ces gens-là et grâce au fait que je commençais à créer une équipe, j'ai pu répondre aux besoins de mes clients.
Ouais, c'est ça. La tâche n'est pas facile du tout. C'est qu'on a un couteau suisse. Je t'arrête à me coucher, c'est vrai.
Ah, oui.
Pour maintenant le choix des fournisseurs, les prestataires, qu'on a le choix maintenant pour les fromages, pour les fleurs, parce que je vois que c'est même si dès que je suis une vieille de peuple.
Ouais. Déjà, moi, avant que je fasse ça, j'avais une appétence pour la food et je suis très intéressée par les bons produits. Je préfère acheter un bon produit, mais la quantité de qu'on mais je préfère un très bon fromage que je vais forcément acheter 3 fois plus cher que le fromage au Monoprix ou au supermarché. Un supermarché. Je préfère acheter moins et avec une qualité meilleure. Puis le fait d'être à Paris, parce que c'est pour le coup, je ne sais pas si j'aurais pu faire ça si j'étais ailleurs, une autre ville, peut-être Je ne sais pas, mais en tout cas, Paris, vu que ça bouge, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de produits, de producteurs, de bons producteurs, etc. Ou Kulchi Hdak, Kulchi à côté, bah, ça m'a permis justement d'aller chercher les bons fromages, les bons pains. Moi, je suis une grande fan de pain et de fromage depuis très longtemps, depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça que. En fait, pendant le Covid, nous, on a été fortement impactés. Et ce qui fait que, enfin, mon ancienne entreprise, ce qui fait qu'on a été, on a été au chômage partiel pendant plus d'un mois. Et là, ça m'a permis de faire mon CAP boulangerie et d'aller à la rencontre d'une boulangerie que je voyais au coin de ma rue et avec une vitrine alléchante de pain. Et une petite très syndrome pour leur dire que je voulais travailler chez eux, enfin avoir une expérience chez eux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré bah, Maison Dimanche, qui est aussi mon partenaire et aussi mon associé sur une autre société. Enfin, donc ça le côté, pour répondre à ta question, le côté fournisseur, je travaillais chez Cisco. Cisco, c'est pas le Cisco.
Ouais, j'ai vu ça. C'est un
Ouais.
autre appelé au Cisco, parce que
Non,
c'est sécurité.
je à chaque fois, oui, c'est vrai que Bzevnes, Cisco, réseau, mais non, c'est Cisco, c'est. Oula, il y a un bruit. Ah, c'est bon. Non, c'est bon, il y avait un petit tic. Cisco, ils font de la livraison de produits. C'est des fournisseurs de produits alimentaires de gros. Donc, ils travaillent avec leurs clients, c'est les traiteurs, les restaurateurs. Et vu que je travaillais chez eux, bah, du coup, j'ai récupéré un peu. Ils ont été mon premier fournisseur, en fait. Et c'était justement dans les négociations que j'ai eues. C'était pour pousser cette négociation, je leur disais, enfin, je leur ai promis de les garder en tant que fournisseur. Et aujourd'hui, je suis ravie de travailler avec mes anciens collègues, toujours, que j'ai des fois au téléphone, etc. Et donc, ça fait une petite boucle. Bah, je me fournis de chez eux.
Ouais, ça se voit que la suite logique, une continuité fluide. Et pour toi, d'abord, le métier, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Sinon, on a des skills que qui demandent chaque jour pour tenir.
Bah, en fait, c'est un travail quand même très physique. C'est un travail physiquement et mentalement très qui demande beaucoup qui demande d'être assidu en fait dans sa vie, je dirais, au quotidien. C'est vu que c'est ma passion, bah, du coup la passion fait que le travail ne soit pas vu comme un travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à faire plus de 10 heures, plus de 12 heures par jour. Et parce que justement c'est ma passion. Et pour moi il faut essayer de trouver vraiment ce qui En fait, dans chaque reconversion, il faut que ce soit passionnant pour la personne. Parce que sinon, tu ne tiendras pas, quoi. Enfin, c'est compliqué de tenir. Et pour les skills, pour moi, il faut plutôt avoir de l'expérience. Moi, je dirais l'expérience. Expérimenter de nouvelles choses, essayer de tâter, essayer de voir ce que les autres font et pas forcément faire comme eux, hein, mais au moins voir comment. Comme ouais, la phrase que j'adore, c'est il est plus facile de je sais plus comment ils disent la phrase, mais on dit souvent qu'il est beaucoup plus intéressant d'apprendre des erreurs des autres. C'est oui, ça coûte moins cher, voilà, ça coûte moins cher d'apprendre des erreurs des autres que si toi-même tu fais l'erreur. Tu vois ce que ça veut dire? Et justement, pour moi, les podcasts, moi, je suis une grande, grande fan des podcasts. Je m'écoute tous les jours. J'écoute ça tous les jours, tous les matins, pendant les transports, etc. Et j'apprends beaucoup grâce au podcast, quoi. Voilà, je ne sais
C'est
pas si.
l'expérience des autres et de gâter un peu les conseils free et c'est vrai ça. ça aide beaucoup, surtout mais quand on a un podcast qui est spécialisé pour le métier qui le tient, du coup,
Ah bah, mais
ouais.
complètement.
Ouais.
Pour moi, avant de se lancer dans une carrière en cuisine, il est important de connaître les bases de la cuisine. Cela peut inclure des compétences de base telles que la préparation des aliments, les techniques de cuisson, les méthodes de coupe, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un minimum d'expérience parce qu'il est possible de proposer son aide à une entreprise, petite entreprise, comme j'ai fait pour la boulangerie, ou même à des amis ou des membres de sa famille qui organisent des événements. La personne peut tout à fait se porter volontaire et c'est ce que font les familles, c'est ce qu'on fait, mais on aimerait aussi. Et puis, il faut être prêt à travailler dur. Moi, je dirais, il faut vraiment être prêt à travailler dur, parce que la cuisine est un travail quand même difficile et exigeant physiquement et mentalement. Moi, je suis passée d'un travail sédentaire, un bureau 8 heures, 18, 19 heures, à rester debout pendant de longues heures.
Ça change de vraiment sédentarité avec une côté bureau énorme.
Ah oui, mais c'est beau, enfin, c'est trop quoi. Et Flool, moi, ça m'a, mon corps n'a rien compris. Vraiment, j'ai pris un coup. Enfin, mon corps a pris un coup, mon dos, parce que en fait, tu commences à prendre des charges assez lourdes. D'abord, j'essaye de faire attention, donc je laisse les autres faire. Enfin, la personne qui s'occupe du transport faire, mais parce que je sais que mon corps a une limite aujourd'hui et que malheureusement, si je tombe malade, je peux plus rien faire après. Donc, je fais hyper, hyper attention à ma santé physique et mentale aussi, parce que je suis passée par des moments en fin de semaine très, très chargés.
Ouais. Et pour dire la passion, tu penses que la passion elle va des années après ou là c'est juste le début, qu'est-ce qu'on passionnait par ton travail, qu'est-ce qu'on acharnait après ça commence à
Ouais.
être une obligation, que ça amène une passion.
Ouais, bon, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée aussi à un moment. Parce que, bon, la cuisine est une passion, c'est sûr, comme c'est une passion pour pas mal de gens, la cuisine. C'est un métier qui exige un investissement important en temps et en énergie. Pendant les moments durs, c'est la passion qui aide à garder le rythme. Ça, c'est clair. Mais vu que. Quand la passion, justement, devient ton travail, au bout d'un moment, en fait, il faut que tu trouves une autre passion pour que justement tu puisses sortir de ton job, tu puisses sortir le monde de Jelk qui est devenu ton monde. Aujourd'hui, je me réveille, je vis, je me nourris, je dors de buffet. Donc, non, j'ai dû trouver autre chose qui, justement, me nourrit. Et aujourd'hui, je peux me nourrir soit de. J'ai pas d'autres passions comme je vais pas j'ai pas d'autres passions là aujourd'hui mais autres que la cuisine mais je sais que le fait de peindre me fait du bien, le fait de faire un petit peu de musique me fait du bien, le fait de sortir faire des choses pour moi me font du bien, enfin tout ça, et je commence à justement l'intégrer dans mon planning, trop des fois trop chargé pour me sortir de la bulle quoi.
Ouais. Et sinon, maintenant, mais créer ton entreprise, tu avais pensé à quel nom tu vas apporter au marché parisien, où il est déjà saturé par les traiteurs, où ce sera une touche qui est aussi une touche spéciale méditerranéenne, qu'un screening de concurrents, c'était comment?
En fait, quand j'ai commencé, j'étais étonnée du nombre de traiteurs qu'il y a à Paris. C'est quand même un métier très, très, très qui est concurrentiel ici à Paris. Pour te dire, tous les restaurants que tu vois aujourd'hui qui sont à Paris peuvent faire du traiteur aussi. Donc, je te laisse imaginer le nombre de concurrence, enfin, la concurrence rude qu'on a ici à Paris. Mais je trouvais que ce que je faisais et mon offre qui me ressemblait, parce que bon, je suis née, j'ai grandi au Maroc, où j'ai été, comme toi, marquée par les grands festins familiaux, de joie de vivre, de convivialité. Et c'était un peu cet esprit, les couleurs, le partage que je veux transmettre à travers tous les buffets que je propose. Mon objectif, c'est vraiment de raconter mon histoire à travers chaque buffet. Chaque buffet est unique. Il y a des plats différents à chaque fois. Il y a une décoration différente. Mais à chaque fois, ça va reprendre les plats des recettes de maman, les recettes de ma grand-mère. Et vraiment, il y a une certaine... Les gens, je sais que je touche certaines personnes avec ce que je raconte, et parce que c'est très sincère, quoi. Enfin, parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais pas commencé ça en tant que. Je voulais pas en faire un métier au début, c'était pas du tout mon objectif. Mon rêve n'était pas de devenir traiteur, hein. Enfin, je ne pensais jamais le devenir d'ailleurs, mais c'est devenu mon rêve dernièrement et puis voilà, enfin.
Ou un buffet soleillé méditerranéen et tout ça, c'était floué dès le début ou là ça m'a développé au fur et à mesure.
Non, ça a été développé au fur et à mesure. Au début, je préparais des choses, un peu ce qu'on prépare d'habitude. Un peu de hummus, un peu de machin, mais sauf que j'ai trouvé que ça me ressemblait pas, que c'est pas, qu'il y avait pas la touche marocaine qui est hyper importante pour moi, et c'est là ma valeur ajoutée, en fait. C'est ce qui fait que aujourd'hui ma clientèle, c'est beaucoup d'entreprises, 50% d'entreprises et 50% de particuliers qui se voient en cette cuisine, qui se voient en ce projet, qui veulent aussi pour leur mariage avoir une touche marocaine, parce que ça leur tient à cœur, parce que ils sont c'est souvent les franco-marocains ou les mariages mixtes par exemple ou qui demandent à avoir une petite touche marocaine à leur cérémonie de mariage, et parce que c'est important pour eux, donc ils font appel à nous, enfin à moi justement, qui va proposer cette offre là, une moderne, on va dire une offre moderne, parce que je mixe entre ce que j'adore, le mghreb, zaylo, tout quoi, moi j'adore ça, et puis la cuisine d'aujourd'hui qu'on mange ici, comme les burgers par exemple. Aujourd'hui on a deux produits phares que tout le monde adore, c'est les burgers avec poulet citron confit d'Hermera. Ça fait comme un tagine dans un burger, tout le monde adore, et puis aussi le cheesecake à base de fraises, fleurs d'oranger, éclats de pistache. Justement, j'explique pour mes clients français, j'explique d'où vient le fraises, comment il est fait, etc. Et voilà.
Ouais, j'ai goûté, c'était trop bon aussi.
Tu l'as goûté?
Ouais, bien sûr, carrément, nous y en bizarre. Oui, du coup, on sent que le buffet Hada, c'est comme, tu te sens, je pense, aussi comme ambassadrice de la culture et la food marocaine, Fenaïf Paris. Du coup, c'est une charge, c'est comment? Tu le vis comment? Avec fierté, comment ça?
C'est vrai que je pense que j'ai un rôle important en tant que jeune entrepreneur dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin aussi, et notamment pour les femmes d'origine marocaine. Et ça, je pense sincèrement que j'ai un rôle à jouer, parce que je constate qu'il y a encore aujourd'hui une nécessité de valoriser des femmes qui ont un talent incroyable et qui portent des projets innovants. J'essaye de rendre avec les moyens que je peux, j'essaye de rendre visible celles qui réussissent en collaborant avec celles qui ont un désir d'entreprendre. D'abord autour de moi, je vais essayer d'entreprendre avec les femmes, les talentueuses marocaines, comme je vais les citer parce que c'est un Khedmaoum Bzef, Zine Bnani, qui est pâtissière, il y a d'autres personnes aussi qui m'entourent, qui complètent mon offre aujourd'hui, et qui, euh, et qui ont la légitimité d'être connues aujourd'hui. Et pareil, elles font de la promotion des produits marocains, comme moi, je fais aussi, j'essaye de promouvoir les produits marocains. Par exemple, aujourd'hui, je le dis fièrement, je suis fière d'avoir fait goûter à... J'ai fait goûter à Balenciaga le Zeylouk, par exemple. Ils m'ont contacté pour justement goûter le Zeylouk parce qu'il y a eu un moment où j'en parlais beaucoup sur les réseaux et ils voulaient absolument du Zeylouk dans leur buffet.
C'est la première fois, je pense, pour Yann et Tina, comme c'est vraiment l'impression première d'Yalom pour la cuisine marocaine.
Oui, clairement. Ils n'avaient encore jamais goûté de Zeylouk dans leur vie. Et oui, je suis fière de l'avoir, de continuer à le faire parce que je continue à le faire. Il y a le MLO aussi que je continue à promouvoir chez mes clients internationaux. Ils sont contents de goûter à de nouvelles saveurs qui sont encore méconnues ici au Maroc, mais ça, enfin en France plutôt. Mais ça vient petit à petit quand même.
Ouais. Surtout au Naïf Paris, je pense que la cuisine marocaine elle est présente, mais pas autant qu'il y a une modification bira de la maquillage qu'on a dans le Maghreb ou la maquillage qui est présente à Naïf most of les restos les Kenyan.
Ah bah oui, oui, mais ça pour la simple raison parce que on n'a pas la même qualité des produits. Les fruits et légumes au Maroc sont beaux, enfin meilleurs. Ça, c'est mais il y a peut-être une merde à l'égout que le contraire. Et ce qui fait que le résultat est différent. Vraiment grâce aux fruits et légumes, la qualité qu'on a au Maroc. Les épices aussi, etc. Et justement, j'essaye de me fournir, par exemple, les épices, c'est pas la Tienjibou Maï du Maroc. Parce que vraiment, j'arrive pas à trouver la même chose ici.
Ouais. Ouais, je pense que ça dit pour les expats, beaucoup, qui a mieux notre haja, on ramène toutes les épices du Maghreb, parce que Naya, ils sont très fades.
Ouais.
Et sinon, un anecdote maintenant à nous raconter au pratique de l'un de tes événements.
Anecdote, bonne question. Je crois que j'en ai plusieurs, mais je n'étais pas français.
Tu es sûrement avec le stress d'il y a deux jours J. Besoin de trajet qui est le cas. Maintenant, c'est historique, hein, je fais maintenant que 2 heures avant, tu commences à préparer le buffet, ou je pense que avec la date, avec le stress, avec aussi...
Ouais. C'est vrai. En fait, je vais dire plutôt, je vais parler de difficultés. D'abord, il y a eu des jours, le livreur, ma farche menes, on devait partir à 5 heures, je ne sais pas, un problème ou là... Ah oui, une fois, c'est bon, là, ça me revient. Et bien, justement, c'est une question de livraison. C'était aussi pour une livraison. On devait partir à 6 heures du matin. Donc, le gars arrive avec son camion frigo devant. Et là, on commence à charger le matériel, la matière première, etc. Enfin, les produits plutôt finis, etc. Et là, il tombe en panne. Grosse galère, 6 heures du matin. Et c'était un dimanche, il n'y a pas grand monde. Il tombe en panne. Il faut trouver un plan B, plan C, que j'ai toujours aujourd'hui. Vu que, avec le temps, j'ai pu récupérer les numéros de chacun. Les numéros de les gens Uber, les gens de les camions frigo, etc. Et après 10 coups de fil, j'ai réussi à avoir une autre personne, mais ce qui fait que par contre on a pris quand même beaucoup de retard et le retard sur une prestation peut te coûter très très cher parce que si tu arrives chez le client en retard, je touche du bois, ça nous est jamais arrivé, on a toujours été dans les temps et même quand on est quelques minutes en retard, on arrive à les rattraper pendant durant la prestation et la préparation de la presta. Mais oui, c'est toujours stressant, en fait. Les départs sont toujours très stressants. Tu vas avoir ça, tu vas avoir aussi... ma phobie, c'est ça des trucs. Maintenant, j'ai plusieurs checklists que je checklist, recheckliste avec toute l'équipe avant de partir parce qu'il y a un truc, et si elle, pourquoi je t'ai dit beau, et tu sais très bien qu'à Paris... À Paris, si tu veux te déplacer, tu en as pour minimum 1 heure. Donc, non, c'est plus des difficultés qu'on a. Mais bon, alhamdoulilah, ça va. Là, avec le temps, je sais comment y remédier. J'ai des solutions en connaissant du monde et en étant bien entourée, je dirais. C'est comme ça que j'arrive à.
Ouais, c'est un métier aussi de contact, je pense, traiteur, parce que tu travailles bizarre manas, y a ni machi pas de mi conti le bureau et tout. Je dois toujours avoir le contact humain.
Bien sûr, le contact humain, le contact avec les fournisseurs, les partenaires, c'est hyper important. Par exemple, il y a eu un moment, notre fournisseur n'avait plus de saumon, par exemple. Enfin, c'était sold out, quoi. Enfin, sold out, il n'y avait plus de stock de saumon. Heureusement, je connais des restaurateurs aujourd'hui qui peuvent me dépanner. Sur les produits qui sont pas livrés. Ouais, saumon, j'aime le saumon plus tard. Tu vois, ça, hyper, hyper important quand tu es du métier, de connaître un peu les personnes sur qui tu peux compter.
Ouais.
Enfin, en fait, ça te permet d'être plus sereine. Parce que au début, quand j'avais pas les contacts, quand j'étais pas entourée, etc., je peux te dire que la nuit, c'était compliqué de dormir. Enfin, pour moi, c'était compliqué de dormir parce que à chaque fois, pas ça craf, mais j'ai le livreur, ça craf, le truc n'est pas livré. Enfin, il y a plusieurs
Situation de off last minute. Ouais. Et du coup, je pense à ma dit qu'on peut dire que qu'il y a deux autres skills. Je pense que tu es perfectionniste avec les checklists et recheckists,
Exactement, exactement, ça aide. Alors, j'essaye justement de ne pas être trop perfectionniste. Et justement, pour moi, la règle 80-20, je ne sais pas si tu connais,
ça
est
aide. Ouais.
hyper importante que j'ai apprise. D'ailleurs, j'ai écouté des podcasts. Comme je te dis, vraiment, les podcasts, c'est une école pour moi. Et j'écoute les podcasts d'entrepreneurs, femmes ou hommes. Que je connais à travers les marques, etc. Et oui, pour moi, la règle 80-20 est hyper importante parce que vaut mieux fait que pas fait. En fait, comme le podcast, par exemple, qu'on fait, je l'ai pas, je t'avoue, je l'ai pas vraiment préparé, enfin, je l'ai pas du tout préparé, mais je me dis, bon, vas-y, je vais quand même le faire, vaut mieux fait que pas fait. Et oui, je suis contente quand même de parler de tout ça.
Très bien. Et sinon, je pense que pour d'abord maintenant en liaison avec ton métier d'avant, quality bzaf diel aussi diel skills li kon dik ta non belle où tu les appliques aujourd'hui, j'imagine, parce que c'est toujours une entreprise, il y a avec les manières de travailler, je sais pas, les présentations, les trucs comme ça.
Oui, bien sûr, mais je le dis. En fait, donc le métier que j'avais avant, évidemment, ma tâche. Et heureusement, j'ai beaucoup appris en faisant des slides, en faisant des réunions hebdo. C'est ce que je fais aujourd'hui avec mon équipe. On a une réunion hebdo. Je fais les bilans mensuels à la fin où je réunis tout le monde pour justement que tout le monde sache où on est, où on va. Ça, c'est hyper important pour l'équipe. Et en fait, c'est des habitudes que j'ai apprises quand j'étais sur le conseil. Enfin, j'ai fait du conseil. Les slides aussi, maintenant, j'en fais rapidement. Et en sortant d'école, je ne pouvais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr. Parce que ben, tout ça, je l'ai appris au boulot.
Yannick, c'était aussi une école, Yannick. Même si le métier n'est pas le même, ou ce sont les mêmes façons, les mêmes manières de travailler qui prennent soin.
Heureusement que j'ai fait ça aujourd'hui. Même quand je travaille avec certains, je dirais, bon, partenaires ou fournisseurs, et ben, même Houma me font la remarque. Ils me disent, ah oui, c'est un peu carré, c'est cool, c'est clair. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ils sont plus en mode brouillon, etc. Ce que je comprends. Mais Anna, oui, c'est important pour moi que ce soit bien clair. Slider, centré, avec des chiffres, avec des trucs concrets, c'est important.
Et je voulais aussi te poser cette question. Maintenant, pour toi, la plateforme Insta, ça t'a aidé aussi à visualiser ton projet pour avoir des clients, tout ça?
Ah bah bien sûr, mais bien sûr, c'était mon canal numéro 1. C'était bah d'ailleurs c'est grâce à Insta, je dirais au début que j'ai pu trouver de nouvelles des clients. Enfin trouver, je les ai pas cherchés. Enfin c'est vrai que j'ai de la chance fine vu que c'était pas mon objectif de le faire. Pardon. Bah j'avais dans des clients, je recevais des demandes sans forcément le vouloir et c'est grâce à Insta. Et plus je partageais ce que je faisais sur les réseaux, plus j'avais de demandes. Et pourtant, hein, j'avais une hantise des réseaux sociaux. Moi, je suis pas du tout. D'ailleurs, tu le vois, je partage pas ma vie, je partage rarement un an, etc. Mais parce que j'étais une anti-réseaux sociaux à l'époque. Quand je faisais les recettes, avant de faire les recettes, je ne comprenais pas les gens qui avaient des comptes publics. C'est pour te dire à quel point j'avais une hantise des réseaux sociaux. Et en fait, comment ça se fait que j'ai changé d'avis? C'est depuis le voyage que j'ai fait en sac à dos en Asie du Sud-Est où j'ai été toute seule. J'ai été toute seule le voyage pendant 3 mois. Et justement, c'était une expérience un peu inédite pour moi parce que j'allais chez l'habitant, je dormais chez l'habitant. Et je voulais quand même partager pour avoir ce lien fédérateur avec mes amis et mes proches. Je voulais quand même partager ça à travers Insta. Donc, j'ai créé enfin, j'avais Insta à l'époque, mais je l'ai ouvert au public. Et c'est là où j'ai commencé à partager les recettes que je faisais avec les familles chez qui je logeais et à partager un petit peu mon voyage en mode vlog, enfin vlog de l'époque fine, petit vlog, tu vois. Et puis je comprenais pas comment les gens m'écrivaient quand même des gens qui ne me connaissent même pas, qui commençaient à commenter mes photos, mes vidéos, m'écrivaient sur Insta. Et je trouvais ça intéressant. Et je commençais à justement à créer des liens avec certaines personnes. Et depuis, mon Insta a commencé à attirer plus de monde et je commençais à avoir plus de followers et plus je partageais les recettes parce qu'avant je partageais plus de recettes, enfin je faisais que les recettes. Depuis les recettes, quoi, je crois qu'avant de créer la société, j'avais déjà plus de 20 000 followers. Donc j'avais quand même une communauté hyper engagée qui suivait mes recettes, qui refaisait mes recettes. Et d'ailleurs, mes clients aujourd'hui, il y en a qui me suivent depuis très très longtemps, depuis les bananas, l'époque des banana bread.
Venant un peu à la reconversion pro, un peu les débuts, Mia quand tu es toujours, je pense, toujours avec ton ancien employé, d'ailleurs, c'était comment le choix de ta formation, ou c'était vers, je pense pas qu'un pâtissier, qu'un plus boulanger.
Oui. En fait, quand j'étais à l'époque chez Cisco, eh ben, c'est l'époque le chômage partiel dû au Covid. Qui m'a poussée à faire autre chose parce que on faisait rien, tu te rappelles, on était fermés, on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, etc. Enfin, bref, c'était vraiment quand je reviens à cette époque-là, Tengoul, mais comment on a été aussi. Enfin, imagine, Tengoul, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi.
Non, mais c'était extrême, ça là.
Ouais, c'est très, très extrême. Personne ne. Je l'avais en tête, celle-là. Bref. Et en fait, je... Oui, je devais rester un mois et demi à la maison à ne rien faire. Un an, c'était impossible. Je suis pas du tout du genre très active. Je suis pas du tout... En plus, je me lève tôt. Donc, je te laisse imaginer les journées, comment elles sont longues. Je fais pas de sieste, etc. Donc, j'avais vraiment beaucoup de temps. Fallait absolument que je trouve quelque chose parce que bon, là, regarder la télé, les infos, finir le Covid, etc. La Netflix, Camel et tout, une semaine, c'est bon. J'avais fait le tour. Il fallait absolument que je trouve autre chose. Et puis, moi, j'ai déjà commencé à faire du. J'avais déjà commencé à faire du pain avant. Et c'est vrai que la période du Covid, les gens ont commencé à faire du pain, si tu te rappelles.
Ouais, moi-même, j'en ai fait.
Ouais, bah, tu vois. Et moi, j'avais déjà à l'époque, je faisais déjà du levain chez moi, enfin, le khmer abdia chez moi, etc. Et en fait, j'avais mon compte CPF. Je sais pas si tu
Ouais,
connais,
ouais.
ça te permet de cumuler des points pour et te donner droit à certaines formations, etc. Écoute, bon, bah, j'ai mon compte CPF, ça fait quand même un bon moment que je travaille. J'avais cumulé pas mal de points ou d'euros, je ne sais plus comment c'était, je ne me rappelle plus. Mais j'avais assez de points pour suivre une formation en e-learning, donc à distance, parce que je voulais pas, je pouvais pas aller sur place. Donc forcément, il fallait que je fasse un truc à distance. Et c'est là où, bon, pourquoi pas faire le CAP boulangerie. Sauf que du coup, le CAP boulangerie, tu le fais et pour le valider, il te faut 4 mois de stage. Et c'est là où j'ai été chercher une boulangerie qui puisse me prendre en tant que stagiaire. Donc, ça a été Maison du Dimanche. Voilà, c'est un petit la petite club. Je sais pas si je
D'accord.
réponds à ta question, je ne me rappelle plus ta question.
Oui. Et qui fait un métier de lien, mais quand tu as un métier de reconversion pro, c'était dans ta tête, tu te projetais déjà fait métier de traiteur ou pas encore? C'était
Ah
juste.
ouais, non, je crois de CEPS à l'époque, mais pas du tout. On m'aurait dit que on m'aurait dit dans un an, tu allais être traiteur, j'aurais rigolé.
Mais je pense que c'était un temps quotidien la boulangerie. Du coup,
On est
pour
bien.
toi, c'était une porte ouverte pour un métier, un
Bah
peu.
oui, j'étais. Bah oui, c'est vrai que le fait d'être curieuse, de savoir ce qui se passe chez les autres et de ne pas être fermée. Parce que les Marocains ici, on est très entourés de consultants, tout le monde a un peu la même vision de la vie, je dirais, un peu les mêmes. Ouais,
Ouais.
Berna, presque pareil. Tout le monde fait du conseil aujourd'hui autour de
Ouais.
moi. Et c'est très rare d'entendre que chez Wahid Fina entrepris ou entreprend quelque chose. Et oui, non, donc en fait, le fait de rencontrer d'autres personnes, sur, comme tu dis, sur certaines visions de l'Hayat, etc. Et la curiosité et le fait de voir ce qui se passe ailleurs, je crois que je l'ai appris de mes parents. Enfin, oui, c'est sûr que je l'ai appris de mes parents parce que eux, je dirais qu'ils ont une grande ouverture d'esprit. Alors, quand je dis ouverture d'esprit, c'est pas des gens vraiment qui vont tolérer Kulchi. Non, non, c'est pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est aussi respecter la différence. Donc, respecter les gens, ils ont toujours respecté les gens qui sont différents d'eux et ils sont toujours intéressés à ces gens-là. Et c'est pour ça que, non, je pense, hein, je te parle vraiment en réfléchissant. Ouais, j'ai toujours été attirée par les gens qui ont des vies complètement différentes de la mienne.
Ouais, ça explique, je pense, que pourquoi le métier il y a un peu d'ingénieurs que la majorité des Marocains qui sont ici font. C'est pourquoi tu as fait le voyage solo 3 mois.
Ouais, c'est sûr. Ouais, mes parents m'avaient poussé justement à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que faire le voyage, il y a des gens, mais qui réussissent des vies complètement délirantes. Les Mamar Matisse, il y en a que ça existait. Et oui, ça te pousse à avoir un regard extérieur sur certaines choses. sans forcément juger. Tu vois, par exemple, Hadak, il est différent de ça, comment tu es et comment tu réfléchis. Eh ben, c'est bien. Enfin, c'était sans jugement. Et ouais, je pense vraiment c'est grâce à... Ah bon, non, s'ils écoutent le podcast un jour.
Et je pense aussi, Dabahalien, vu que tu as changé beaucoup de choses dans ta vie avec ce métier-là, c'est peut-être aussi ton expérience d'expatriation, je dirais. Comment tu le vis maintenant ? Expatrié, seulement expatrié avant, ingénieur chez Cisco, ou seulement expatrié aujourd'hui comme traiteur ?
Ah, je pense... Bon, tu sais, moi, ça fait quoi, 12 ans que je suis en France. Et enfin, les 12 ans, il se passe tellement de choses. Et pendant les 12 ans, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. C'est vrai que quand tu pars, moi, je suis partie à l'âge de 18 ans, après mon bac, où j'ai été en Bretagne pour faire pour mon école. Et à l'époque, tu suis un peu ce qu'on t'a toujours dit, ce que tu as toujours su au Maroc, ce que tout le monde, ce que tes cousins, tes cousines font, etc. Donc, tu suis un peu là, avec le chemin, il est déjà fin, Amrolk, Raske, en France. Et bon, tu suis un petit peu ce chemin-là. Et après, justement, il y a eu un moment où j'ai commencé à voir... c'est là où il y a eu le voyage. J'ai commencé à m'ouvrir à autre chose, à rencontrer d'autres personnes différentes, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé, je dirais oui, à évoluer. Et à comprendre qui je suis, comment je fonctionne, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Tout ça, c'était des questions que je ne me posais pas du tout avant. Tu sais, t'es jeune, t'es encore... tu te poses pas des questions.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'est aussi avec l'âge ou avec les expériences que notre vision change. D'ailleurs, je pense
bien
que...
Bien sûr. Ouais.
Après, chaque 2-3 ans, on a d'autres aspirations, d'autres ambitions.
Exactement. Alors, je ne sais pas, 2-3 ans, je ne sais pas si une science infuse, mais oui, je pense qu'on change. Et heureusement qu'on change.
Ouais.
Parce que sinon, c'est nul.
Oui, c'est vrai. Et pour toi, est-ce que tu as d'autres projets à part le métier de traiteur? Parce que je trouve que tu organises aussi des branches avec Déjà Bu. Et oui, le cheesecake chez Buc. Du coup, tu as un rêve ou bien un objectif d'avoir un resto chez Hajar Halaïda dans ce sens-là?
Oui, alors mon ambition, c'est pas d'avoir un resto. Je pense que le métier dur est la restauration est très dure. Et puis la conjoncture actuelle à Paris fait que, en France, en France surtout, fait que le domaine de la restauration est quand même très très dur. En fait, mon ambition est plus d'avoir. Aujourd'hui, je co-loue un labo, donc je suis en colocation d'un labo, on va dire, mais j'aimerais bien avoir mon propre labo, et puis c'est un objectif à court terme, je pense l'avoir bientôt, j'espère, je croise les doigts, mais je voudrais que l'équipe s'agrandisse, je voudrais avoir un autre labo aussi ailleurs, mais j'aimerais bien aussi commencer à faire des prestations ailleurs que Paris, il n'y a pas que Paris, il y a aussi beaucoup de choses à faire ailleurs. Et oui, j'aimerais bien que travailler sur ça. Enfin, je travaille actuellement sur le développement de tout ça.
Ok, peut-être le Maghreb.
Peut-être, je ne sais pas encore, mais oui, moi je reste pas fermée. Moi, le Maroc, le Maghreb, ça reste mon chez moi, c'est mon pays, ça va toujours être mon chez moi. Et d'ailleurs, très souvent, mes parents viennent très souvent. J'essaye d'acheter des petits trucs du Maroc parce que, comme je te dis, les épices, par exemple, sont... Mais tu peux pas, franchement, ne serait-ce que, que, allez, paprika, le paprika, vraiment le paprika de Mghreb, il est 18 fois meilleur que paprika d'ici. Il a le goût.
Oui, ici, je pense que les gens ils savent pas que paprika a un de goût.
Ben, je
Exactement.
précise. Merci, exactement, exactement. Bah voilà. Et c'est pour ça que du coup, bah, finalement, bah, les Français me disent, mais non, mais c'est bon, il y a beaucoup de goût, on sent qu'il y a du travail, etc. Mais oui, c'est grâce aux épices. Moi, j'utilise beaucoup d'épices dans ma cuisine. J'adore ça. Et,
Oh, ça fait énormément de différence, la rhabach taïeb avec les épices ou pas.
ouais. Ouais, bien sûr. Et en parlant aussi de mes projets, enfin, là, c'est. J'aimerais bien, bon, ça, c'est mes rêves. Moi, j'ai beaucoup de rêves aussi dans ma tête. Enfin, des fois, je me réveille avec 10 rêves en même temps. Et non, mais j'aimerais bien aussi lancer une ligne, une grande fan de vaisselle. D'ailleurs, quand tu vois, à chaque fois, j'utilise une nouvelle vaisselle. Enfin, j'essaye d'utiliser. À chaque fois une vaisselle authentique, originale. Et oui, l'idéal serait d'avoir sa propre ligne de vaisselle spéciale traiteur le temps d'un buffet. Enfin, ça, c'est vraiment l'idéal, quoi. Ça va pouvoir se faire, je ne sais pas. On verra.
Oui, ça va.
Voilà.
Très bien, très bien. Sarah, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
Mais oui, il y a déjà une heure.
Oui, moi, merci, tu viens à Maroc.
Ouais.
Et Makarachi, qu'on termine sur quelques conseils que tu peux donner aux femmes expatriées, j'imagine, ou bien aussi des entrepreneurs femmes à Paris. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour elle?
Oui, alors si j'ai des conseils, je pense qu'à chaque fois je dis qu'il faudrait apprendre. Il ne faut pas forcément avoir de passion. Beaucoup n'ont pas de passion, ils ne savent pas s'ils ont une passion ou pas, mais ça, ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que moi, je conseille fortement d'aller essayer des choses nouvelles qu'on connaît pas. Tu apprends, tu commences à apprendre bah, de nouvelles. De nouveaux skills, quoi. Enfin, et c'est comme ça d'ailleurs que moi, je savais même pas que j'avais cuisiné comme ça, vraiment. Donc, pour les entrepreneurs, je dirais apprendre un petit peu les bases avant de se lancer sur une carrière. Dans une carrière, il faut quand même connaître quand même les bases. Mais si on peut pas venir. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent se lancer, veulent faire du traiteur parce que bah, ils ont entendu parler du traiteur à droite à gauche, mais. Il faut quand même passer par les bases, c'est hyper important parce que l'idée, c'est de persévérer et ne pas lâcher au bout de 6 mois. Beaucoup créent leur société et lâchent au bout de 3 à 4 mois parce qu'ils trouvent ça hyper, hyper dur à gérer, mais parce qu'ils ne connaissaient pas les bases au début. Les compétences de base, comme la préparation des aliments, un petit peu les techniques de cuisson, les méthodes de coupe, etc. Ça, c'est important. Et je conseille fortement d'être bien accompagné parce que y a nos amis qui nous disent oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, oui, il vaut mieux faire ci, ou il vaut mieux créer une SAS, il vaut mieux créer une auto-entreprise, etc. Mais le mieux, c'est vraiment d'être accompagné par des experts. On n'est pas expert comme ça vraiment, pour rien. L'expert, il va forcément répondre à ton besoin et il va forcément t'apporter plus de choses que ton ami qui a déjà entendu parler de quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Ça, c'est hyper, hyper important. C'est vrai que ça coûte toi, de l'argent de faire appel aux experts au début, mais je conseille fortement de passer par cette étape-là. Bah, comme par exemple l'expertise comptable, l'expertise juridique, etc. Donc bon, là je reste, je parle d'entrepreneuriat.
Ouais. OK, شكرا
Ouais.
بزاف. شكرا على
Merci.
هذا الاشانج، شكرا على النصائح aussi.
Merci.
C'était très précieux.
وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم
شكرا على الاستماع ديالكم.
ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة.
كانت معكم رانيا هدى de la page Mima Live. À bientôt.